Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Alexandre Niungeko.
Nous sommes lundi 20 décembre 2021. Bienvenue, mesdames et messieurs, à l'écoute de la radio Inzamba, Agathe Kakawe, des titres de ce journal. Attaque meurtrière dimanche soir à Gatumba, dans la province de Bujumbura. Au moins 10 militaires et policiers ont péri dans une attaque armée contre une position située à la frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo. L'attaque a été revendiquée par le mouvement Red Tabara. La Commission nationale Vérité et Réconciliation qualifie de génocide contre les Hutus les événements de 1972. Cela ressort du rapport présenté ce lundi devant les parlementaires. Un rapport contesté par l'association de lutte contre le génocide à ces génocides qui fait remarquer que seules les Nations Unies sont habilitées à qualifier les crimes de génocide. Le tristement célèbre Gérard Ndayisenga, cadre des services secrets burundais, est-il emprisonné pour répondre de ses multiples crimes? Les défenseurs des droits humains expriment leurs doutes. C'est le cas de Pacifique Nina Hazwe qui fait remarquer que le pouvoir veut jeter de la poudre aux yeux. Voilà pour le sommaire. Bienvenue, bonjour, bonsoir, suivant la position de votre compte.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Commençons par l'insécurité dans la commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. La nuit de dimanche en lundi a été particulièrement sanglante à Gatumba. Une attaque contre une position des policiers et des militaires a fait au moins 10 morts hier, selon les témoins. Les auteurs de l'attaque étaient armés de fusils et de grenades, selon les mêmes sources. L'armée de son côté confirme l'attaque, mais indique qu'un seul militaire a été tué, d'autres blessés lors de cette attaque. Le point avec Georges Nimenya.
Les habitants des environs de Gatumba indiquent avoir été réveillés par des crépitements de fusils vers 23h passées de ce dimanche. Les coups ont duré au moins 40 minutes. Le matin de ce lundi, les sources policières et militaires ont confirmé l'attaque contre une position militaire et policière à Gatumba, à la frontière burundo-congolaise. Sous couvert d'anonymat, les mêmes sources affirment que 6 policiers et 4 militaires ont été tués. Ces attaques ont été menées à Gatumba, une localité se trouvant en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura. Des informations officielles fournies par la police à Mutimbuzi ce matin parlent d'un seul militaire tué, 3 militaires et un policier blessé. Vers l'après-midi de ce lundi, Fred Tavara, à travers son compte Twitter, a revendiqué l'attaque sur les 2 positions militaires et policières, établissant un bilan de 5 militaires et 7 policiers tués, et plusieurs blessés du côté de l'armée et de la police.
Et encore sans vie d'un homme a été découvert dans la matinée d'hier dimanche à la transversale 12 de la colline Rusiga, commune Bugombo de la province de Chibitoke. Les causes et les circonstances de sa mort ne sont pas encore connues. Les témoignages recueillis sur place précisent que la victime a été tuée à coups de couteau. Son corps était couvert de sang frais et était allongé dans un champ situé sur la colline Rusiga. L'administration et la police de la commune Ngombo ont ordonné à des jeunes du parti présidentiel d'enterrer le cadavre. Les crimes et violations graves des droits humains commis en 1972 au Burundi constituent un génocide des Hutus. C'est la conclusion du rapport de la Commission Vérité et Réconciliation, rapport présenté ce lundi devant les membres du Parlement, les deux chambres réunies. La CVR estime que des crimes contre l'humanité ont été commis contre les Tutsis. Le gouvernement de l'époque est tenu pour responsable de tous les crimes selon le rapport. La CVR appelle le gouvernement à demander pardon et à décréter une journée nationale de commémoration du génocide des Hutus en 1972. Les précisions de Benny Axel Akal.
Le rapport présenté devant les parlementaires compile les résultats des enquêtes menées dans les différentes provinces du pays selon Pierre Claver Ndayichaliye, président de la commission Vérité et Réconciliation. Sur base des indices de préparation et de mise en pratique par les institutions gouvernementales de l'époque, la CVR n'hésite pas à qualifier les violations commises de crimes de génocide contre les Burundais de l'ethnie Hutu.
La commission Vérité et Réconciliation, ayant enquêté sur les violations graves, massives et systématiques des droits de l'homme commises en 1972-1973 au Burundi, contre les Barundis du groupe ethnique des Bahutu par le pouvoir du président Michel Michombero, La commission Vérité et Réconciliation déclare solennellement que le crime de génocide a été commis contre les Bahutus du Burundi en 1972-1973.
Le président de la CVR explique également que des Burundais de l'ethnie Tutsi ont été tués en même temps par des Hutus qui étaient révoltés, armés de gourdins et de machettes, mais ces derniers ont été maîtrisés par des militaires loyalistes. Des tueries qui ont été commises en ce sens sont qualifiées par la CVR de crimes contre l'humanité. Pierre Claver Ndaïchaliye fait savoir que lorsqu'un génocide est consommé, des crimes de masse ne manquent pas. Écoutez.
Les crimes contre l'humanité ont été commis contre les Bahutus du Burundi en 1972-1973, dans le sud du pays, et de manière particulière à Rumonge, Nyanzala, Bugizo, et sur le littoral du lac Tanganyika. Les crimes contre l'humanité ont été commis contre les Batutsi et les Bahutus venant des montagnes, appelés dans le jargon local Abamanuka, durant la première semaine du déclenchement des massacres le 29 avril 1972.
La CVR, dans son rapport, formule des recommandations au gouvernement d'instruire ses instances habilitées à mettre en place une loi établissant le génocide des Hutus au Burundi. Et au gouvernement en place de demander un pardon aux familles endeuillées par les crimes de 1972, cela au nom du gouvernement dirigé à l'époque par Michel Michombero, sans oublier l'instauration d'une journée nationale en mémoire du génocide de 1972 contre les Hutus, une fois décrété.
À ce propos, l'Association contre le génocide, AC Génocide de Canada, proteste contre les conclusions de son rapport. Elle estime que la CVR a été mise sur pied par une organisation qui est accusée d'un génocide de compte tenu du rapport des Nations Unies sur les événements de 1993. Suivez Emmanuel Nkurunziza, il est secrétaire de l'AC Génocide Canada.
Premièrement, mise sur pied par une organisation qui est elle-même accusée de génocide compte tenu justement du rapport des Nations Unies qui a montré que le CNDD-FDD au pouvoir aujourd'hui a signé des accords de coopération avec les ex-FAR responsables du génocide au Rwanda. Et ensuite, le CNDD-FDD étant une émanation de l'organisation OU qui a appelé au génocide contre les Tutsis en 1972 au Burundi. Donc, une commission nommée dans ces conditions ne peut pas mener des enquêtes fiables. On ne peut pas être juge et parti. Même si on devait rester dans la logique même ayant mené à cette CVR, il est judicieux de rappeler que lors des pourparlers pour la paix au Burundi, il avait été convenu justement que la composante internationale est inévitable, c'est-à-dire il avait été question de confier l'enquête sur 1972 et sur les autres années sombres du Burundi à une commission d'enquête internationale. Et voilà que justement, avec l'avènement du CNDD-FDD au pouvoir en 2005, c'est justement tout qui change, où l'on va d'abord réduire l'importance de la composante internationale, bougeant ou plutôt changeant d'une commission d'enquête internationale à une chambre mixte au sein de l'appareil judiciaire burundais. Et il avait été question à l'époque de mettre sur pied une chambre forte de 5 personnes, dont 3 internationaux et 2 nationaux. Mais voilà que même cela a été complètement mis au rencard, et ensuite qui va à l'encontre même des procédures de qualification du crime de génocide, parce que il est judicieux encore une fois de rappeler que le génocide étant un crime de droit international ne peut pas être enquêté, décidé et qualifié au niveau national. Parce que voyez-vous, le Burundi n'étant pas une île, nous avons le cas, par exemple, de l'Allemagne nazie. On ne peut pas s'imaginer aujourd'hui une Allemagne où c'est le parti nazi qui serait au pouvoir et qui allait déclarer qu'il y a eu génocide contre les Juifs. C'est justement de ces aberrations que nous tenons à fustiger aujourd'hui.
De son côté, Frédéric Bambouignou-Villa, l'ancien vice-président du Burundi, estime que des experts internationaux devraient mener des enquêtes approfondies sur ces crimes et déterminer s'il y a eu génocide ou pas. On écoute Frédéric Bambouignou-Villa.
Par rapport à ce qui se fait aujourd'hui au Burundi, qu'est-ce que nous n'avons pas dit? Arusha avait bien précisé qu'il allait y avoir une enquête judiciaire pour déterminer qui a fait quoi, qui nous aiderait à qualifier les crimes. Les débats entre le CNDD-FDD et les Nations Unies, ils s'étaient entendus sur la création d'un tribunal spécial avec un procureur qui ne devrait pas dépendre du pouvoir de Bujumbura à ce moment-là. Mais pourquoi maintenant le CNDD-FDD a refusé que son procureur dépende de lui-même? C'était pour qu'il ne puisse pas être libre, pour que tout le processus aboutisse au résultat souhaité, organisé d'avance. Je crois que cette question de génocide, telle que je l'ai lue, j'étais à l'Assemblée nationale lorsque le texte sur le génocide est passé au Burundi et que nous l'avons ratifié, il a été très clair que ce n'est pas un groupe donné dans un pays, un gouvernement dans un pays qui peut décider que dans un pays il a eu un génocide. Non, c'est bel et bien l'Organisation des Nations Unies, des experts des Nations Unies qui viennent mener des enquêtes et constater ce qui s'est passé et arriver justement à qualifier les crimes. Voilà, donc ce qui fait la CVR au Burundi, franchement, est une façon peut-être de se contenter en disant « nous avons accepté qu'il y ait eu un génocide au Burundi ». C'est une chose, chacun de son côté peut dire qu'il y a eu génocide, mais si je dis au Burundi, comme en Vignouvira, je dis qu'il y a eu génocide au Burundi, est-ce qu'il y a eu génocide? Est-ce que justement les experts vont s'entendre sur ce que je dis? Ou je veux absolument que les Nations Unies aboutissent à ce que je pense? Alors là, nous faisons travailler les Nations Unies. Ou nous laissons les Nations Unies travailler pour qu'ils nous donnent quelque chose de neutre, d'acceptable. Mais ce que je condamne d'avance, c'est cette exploitation de génocide d'un côté comme de l'autre pour tenter d'éliminer politiquement l'autre.
Inzamba.
Suite de ce journal avec l'actualité judiciaire, la détention de Gérard Ndayisenga cache des visées inavouées selon les défenseurs des droits humains. Son cadre du Service national de renseignement burundais, cité dans plusieurs crimes, était croué depuis vendredi dernier. Il serait poursuivi pour son implication dans les tortures et autres mauvais traitements infligés à Augustin Matata, militant du parti de l'opposition, le CNR, jusqu'à ce que mort s'en suive. Les défenseurs des droits humains regrettent que des agents du renseignement coupables des différents crimes soient emprisonnés pendant une courte durée pour tromper l'opinion puis relâcher. Plus de détails avec Josephine Jones-Hunzima.
La mise en détention de Gérard Ndayisenga, officier du Service national des renseignements burundais, sur accusation d'avoir torturé à mort un membre du parti SNL, Augustin Matata, ne suffirait pas. Selon Pacifique Nina Adoué, président du Forum pour la conscience et le développement Foucaudé, il faudrait mettre en place une commission indépendante d'enquête sur tous les crimes commis par Gérard Ndayisenga.
Pendant plusieurs années, Gérard Ndayisenga est resté comme un intouchable qui pouvait commettre n'importe quel crime, mais qui ne pouvait pas être poursuivi. Nous saluons son arrestation, mais nous considérons également que ce serait très insuffisant si Gérard Ndayisenga ne devrait être poursuivi que pour la torture d'Augustin Matata. Si réellement il y a cette intention de sanctionner les crimes commis par Gérard Ndayisenga, il faut absolument mettre en place une commission d'enquête indépendante qui devrait lister tous les crimes dans lesquels cet homme est impliqué.
La torture est devenue un modus operandi dans toutes les instructions au sein du Service national des renseignements burundais. Pour son défenseur des droits de l'homme, dans le cas pareil, la poursuite ne serait pas seulement de Gérard Ndayisenga, si du moins ils veulent réprimer ce crime de torture.
Est-ce qu'il était le seul à participer à la torture de toutes ces personnes? Pourquoi arrêter seulement Gérard Ndayisenga pour la torture d'Augustin Matata, alors qu'au même moment, il y a un autre cadavre à la clinique Prince Louis Gwagasore, d'un militant du CNR qui a été également torturé par le service de renseignement en province de Kayanza. Mais pourquoi ne pas arrêter au même moment le responsable provincial du SNR à Kayanza, Léonard Ngenda Kumana, qui a également torturé une personne et dont la torture a causé la mort? Pourquoi celui-là n'est pas poursuivi en même temps que Gérard Ndayisenga?
Au sein du Foucaudé, il qualifie la détention de Gérard Ndayisenga comme une sorte de couverture des crimes graves qui sont commis par les officiers de cette institution.
Il s'agit d'une certaine manière de couvrir les crimes qui continuent à être commis par le Service national de renseignement, en montrant qu'il y aurait au moins un agent du renseignement qui est poursuivi, alors que les crimes continuent d'une manière extrêmement grave. Parce que dans le passé, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup d'autres cas d'agents du service de renseignement qui avaient été momentanément arrêtés après la commission de crimes graves et qui par la suite ont été libérés. Ou bien que lui-même, que sa vie peut être en danger au cours de sa détention.
Au sein du FOCODE, il rappelle la mise en détention dans le passé de Guillaume Magogwa, Joseph Nsabimana, surnommé Ndombolo, celle de Jodassin Nguezabahidi et bien d'autres qui, après une courte détention, ont été relâchés et rétablis au service.
Un militant du parti FNL est incarcéré dans les cachots de la commune Ndega depuis le 8 de ce mois. Marouké, surnommé Ndenderi, est originaire de la colline Sousa, de la zone Murungulira, dans la commune Ndega de la province de Kirundo. Le représentant du parti CNDFTD sur cette colline l'accuse d'avoir eu des rapports sexuels avec une femme d'autrui. Les proches dénoncent un montage. On fait le point avec Jean-Marie Ndabashize.
Les informations que nous détenons des proches de son militant du parti CNR disent que tout a commencé quand la femme en question est allée prendre un verre dans un bistrot tenu par son membre du parti CNR, Mbarushimana alias Ndederi. Les mêmes sources racontent que le représentant du parti CNDD-FTD sur cette colline, Clémence Sibondemi, après avoir pris connaissance que cette femme est allée dans son bar, il a pris un prétexte d'accuser son Mbarushimana d'avoir violé la femme et qu'il doit être arrêté, emprisonné, ce qui n'a pas tardé à être concrétisé, comme le dit son témoignage.
Ndederi est un cabaretier. Il était chez lui en train de prendre un verre de bière. Quand sa femme est arrivée, il a pris une gorgée sur la bière de Ndederi. Ce geste a suffi pour que le responsable du parti CNDD-FDD sur la colline de Sousa accuse Ndederi de coucher avec une femme d'autrui. Nous pensons qu'il l'a accusé gratuitement parce qu'il entretenait déjà avec lui de mauvaises relations. Après, il l'a fait arrêter et emprisonner.
Face à ces accusations, les examens médicaux ont été effectués pour chercher les preuves de l'acte, mais les résultats ont prouvé que rien n'avait été fait. Cela n'a pas convaincu le représentant du parti CNDD-FDD. Il a demandé que son membre du parti CNR continue à être emprisonné. Les proches de Mbarushimana dénoncent une injustice notoire et une campagne de diabolisation des militants du CNR.
On l'accuse d'être le seul à avoir refusé d'adhérer au parti CNDD-FDD. Il est aussi accusé de ne pas donner un bon exemple aux autres militants du CNL pour quitter ce parti. On veut le malmener jusqu'à ce qu'il accepte de gré ou de force. Ils sont dans une campagne de diabolisation des opposants au pouvoir en faisant des montages contre eux. Nous demandons à la justice de bien travailler pour que les citoyens innocents ne soient pas toujours emprisonnés pour rien.
Nous avons cherché à avoir la réaction du représentant du parti CNDD-FDD sur cette colline qui est cité dans ce dossier, mais sans succès.
Pourquoi faut-il se faire vacciner? La vaccination contre la COVID-19 est recommandée par les scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé pour trois raisons. La vaccination protège les personnes vulnérables et réduit le nombre de cas graves et de décès. La vaccination diminue le nombre d'hospitalisations et permet de maintenir le bon fonctionnement du système de santé pour tous. La vaccination permet de lutter contre les conséquences sociales et économiques négatives de la pandémie.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakao.
Parlons justement du Covid-19. L'inquiétude grandit au chef-lieu de la province Makamba suite à l'augmentation des cas positifs du Covid-19. De plus, les habitants contactés révèlent que certaines personnes testées positives et traitées à domicile continuent à circuler dans les ménages et dans les lieux des grands rassemblements comme les marchés sans être inquiétés. Les détails avec Josine Kazé.
Ceux qui sont pointés du doigt par les habitants de la ville de Makamba sont les commerçants et ceux qui exercent d'autres petits métiers au quotidien. Ces habitants ne doutent pas que les personnes testées positives au Covid-19 qui continuent à circuler sont à l'origine du taux élevé de contamination. Ceux testés positifs qui se sont entretenus avec la radio Inzamba disent qu'ils ne peuvent pas rester à la maison alors qu'ils doivent de jour au jour trouver quoi mettre sous la dent. Ils ajoutent que même s'ils ont été testés positifs, l'état de leur santé n'est pas alarmant. Certains des employés de l'hôpital Makamba qu'on a contactés disent que ce comportement est dû à une faible capacité d'accueil de l'unique maison de confinement qui ne peut pas supporter les effectifs grandissants des personnes testées positives ces derniers jours. Les habitants du chef-lieu de la province Makamba déplorent le comportement de ces malades et trouvent nécessaire que les contaminés bénéficient d'un suivi. L'administration sanitaire en province Makamba s'est gardée de tout commentaire sur les effectifs des cas testés positifs.
Le financement de près de 300 milliards de francs burundais que la Banque mondiale a approuvé pour le Burundi est un capital de démarrage pour la vie des citoyens burundais. Annonce faite par le président burundais Evariste Ndayishimiye, c'était son lundi lors d'une réunion tenue à l'intention des intervenants dans le secteur de la protection sociale, l'occasion de remercier la Banque mondiale et d'exhorter les gouverneurs de province et les administrateurs communaux de suivre de près la mise en œuvre des projets qui seront réalisés grâce à ces fonds. Écoutez Evariste Ndayishimiye.
Je vous remercie beaucoup pour cet appui que je considère comme un capital de démarrage pour nos citoyens démunis. Vraiment, le projet, c'est un bon projet si c'est bien géré. Alors j'exhorte tous les administratifs, tous les concernés, techniciens, vous devez fêter ce projet pour que ça soit utile, que ça soit un projet effectivement qui doit relever la vie de nos citoyens. Il ne faut pas que ça soit un projet qui vient distraire nos citoyens, plutôt un projet qui vient pour relever la vie de nos citoyens. Il faut que tout le monde s'y mette. Moi-même, je me suis engagé. Je vais assurer le suivi de ce projet. Ça doit être un capital de démarrage pour la vie de nos citoyens.
Sport pour clore ce journal. Au football, l'équipe nationale féminine du Burundi des moins de 20 ans ne participera pas à la Coupe du Monde prévue au Costa Rica l'an prochain. Elle a été éliminée par la Tanzanie samedi dernier. Au basketball, le tournoi qui déterminera la meilleure équipe a clôturé la première phase avec l'élimination de la formation d'Urunani. Les détails avec Franck Kazé.
Le tournoi de basketball dénommé Nanimkali, c'est-à-dire qui est le plus fort, a encore prouvé que rien n'est impossible au sport. La formation de Kern a en effet surpris tous les amateurs du ballon orange en battant Urunani, pourtant parti archi favori de ce tournoi, sur un score de 57 points à 53. Les dirigeants de Kern indiquent qu'ils ont pris ce match très au sérieux, ce qui leur a permis de gagner cette rencontre. Dans les autres matchs comptant pour ce tournoi, Gymkhana a battu les Mecha par 88 points à 80 et les Hippos ont eu un match facile devant Mutanga United avec un score final de 83 points à 57. Il y a eu du basketball à l'intérieur du pays. À Gitega, Imbeya a battu Brothers Team par 66 points à 61 et Karela Lions s'est imposé devant Young Eagles par 65 points à 45. En Ngozi, Target a battu Messager par un score de 54 à 51. Pour la suite de ce tournoi, chez les dames, les Gazelles croiseront le fer contre Gladiators. Et chez les hommes, il y aura un choc entre Dynamo et New Star et Kern jouera contre Muzinga. Le vainqueur de ce tournoi empochera une somme de 6 millions de francs burundais. Au football, l'équipe nationale féminine des moins de 20 ans a été éliminée par la Tanzanie aux éliminatoires de la Coupe du Monde prévue à Costa Rica l'année prochaine. Battue sur un score de 3 buts à 2 à Dar es Salaam, le Burundi n'a pas pu se qualifier pour le tour suivant devant une équipe tanzanienne trop diminuée. En effet, suite au Covid-19 qui a frappé dans les rangs de la formation tanzanienne, seulement 8 joueuses étaient qualifiées pour jouer ce match, ce qui n'a pas empêché que le match se solde par un match nul d'un but partout, synonyme de l'élimination du Burundi. Toujours au football, le tournoi qui oppose les provinces du Burundi limitrophes à celles de la Tanzanie a été remporté par la province de Makamba qui a battu Kigoma par des buts à 0 ce dimanche, la 5e édition de ce tournoi et Makamba vient de le remporter pour la 3e fois.
C'est par cette actualité sportive que se termine ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous. Au revoir et à la prochaine.